Écho d'économie.
L'or fait la une de l'édition de ce soir. Au Sud-Kivu, un colis d'or estimé à plus de 200 000 dollars américains est saisi depuis hier par la DGDA. Et en Ituri, la chute de l'or au niveau mondial entraîne la baisse d'activité commerciale dans la cité minière de Nyanya. Et nous ferons un tour à Kalemi dans le Tanganyika où les camionneurs se plaignent des tracasseries au niveau du parking de Tricot. Ils déclarent débourser environ 300 dollars américains pour près d'une dizaine de services. Ce soir, nous parlerons aussi de l'impact économique de 18 locomotives neuves de la Banque mondiale réceptionnées ce lundi par la SNCC. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction le Sud Kivu, où la commission provinciale de lutte contre la fraude minière a intercepté une cargaison de 5,5 kg d'or dont la valeur est estimée à plus de 250 000 dollars américains. Ces produits venaient de Shabunda et c'est à Bukavu que le colis a été intercepté hier par le service technique chargé des opérations de la commission provinciale antifraude. Abbas Kayonga, coordonnateur de la cellule technique chargée des opérations au sein de la commission citée, explique au micro de Delphine Amuto.
Depuis notre avènement au service d'antifraude minière, nous avons déjà intercepté plus ou moins 52 tonnes de cassiterite et coltan. Et ces produits venaient de Shabunda, selon les dires de la personne à qui on a intercepté. Et maintenant, on les a acheminés directement à la police des mines. Nous avons aussi intéressé les services de CEC, qui est habilité à faire les analyses et les pesages de ces produits, mais nous avons constaté que c'est de l'or. Après analyse de CEC, maintenant, ils sont en train de répondre au niveau de la police des mines. On est en train d'entendre ces messieurs pour savoir plus. Aujourd'hui, c'est une grande quantité, bien sûr, de l'or que nous venons d'apprendre, parce que l'or est très difficile d'intercepter. Mais nous avons investi dans la population. C'est la population qui nous informe, qui sont devenus de nos aviseurs, au lieu d'investir dans des machines. C'est pour vous dire que nous allons continuer à travailler, et nous allons continuer à décourager ces fraudeurs. Et j'interpelle même ces gens qui font la pratique de ces fraudes, qu'ils cessent pour aller quand même travailler en ordre et payer leurs documents officiellement qu'ils vendent dans des comptoirs agréés pour éviter de telles pertes.
En Ituri, les transactions commerciales tournent au ralenti dans la cité minière de Nyanya. L'AFEC Nyanya justifie cette situation par la chute du prix de diamants et d'or sur le marché local. Le carat du diamant est en effet passé de 350 à 250 dollars américains, tandis que 10 grammes d'or qui se négociaient à 400 dollars revient aujourd'hui à 350 dollars américains. Devin Waïsala, qui revient de Nyanya, nous raconte.
Nyanya était carrefour commercial ravitaillé par les axes Bunia, Beni, Iziko et Kisangani. Le flux de marchandises y est important, mais depuis début juillet, les affaires sont à baisse. Selemani Kagombe, premier conseiller de l'AFEC Nyanya, explique cette situation à ses termes. Ici, nous sommes au milieu au carrefour où nous vivons à partir des mouvements de ceux qui cherchent les matières précieuses. Mais rien ne marche aujourd'hui. Cette situation est consécutive à la chute des prix des diamants et de l'or. Toute personne qui a un petit colis préfère les garder pour ne pas vendre à perte. Le nombre de négociants de diamants ne fait que diminuer à Nyanya. Ladi Kalonda, un négociant local de diamants, explique cela par la chute des cours des matériels précieux.
Parce qu'on est à moins 25% prix normal des diamants, moins 25%. Et ici chez nous, s'il y a baisse des prix, automatiquement il y a changement de triage. Parce que par triage, c'est la façon de scinder les diamants. Parce que les diamants, des différents prix, ville, les poids. Mais pour le moment, nous constatons que c'est la chute. Oui, le nombre a diminué parce que vous savez, si aujourd'hui quelqu'un avait par exemple 1000 dollars et il se retrouve avec 300 dollars, il faut qu'il parte parce que sinon il va tout terminer.
Aujourd'hui, si j'amenais un carat, je peux le vendre à combien?
Bon, un carat, si c'est propre, bien taillé, il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, vous allez vendre à 250. Auparavant, c'était 350. C'est vraiment qu'il a gagné considérable. Parce que si dans une pierre, vous perdez 100 dollars, vous avez acheté à 350, vous revendez à 250. Vous savez ce que ça fait.
Même son de cloche du côté de la coopérative de négociants d'or de l'Ituri Konori. L'on est Mamou quoi, son président.
Que s'il faut vendre les colis sur perte, on risque de perdre même le capital des négociants. Raison pour laquelle la plupart gardent leurs colis à la maison et n'ont pas la volonté de vendre ça. Ils vendent peut-être juste une petite quantité pour la survie.
Notez que l'or et les diamants qui sont commercialisés à Nyanya Centre proviennent des foyers miniers situés dans la forêt de la région. Bunia, Delbert, Waïsala, Radio Capi.
Pendant ce temps, à Kisangani, dans la province de la Tchopo, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE en sigle, a donné le week-end une formation à plus de 70 personnes parties prenantes dans le secteur minier. La formation a porté sur la gestion responsable des minerais dans sa chaîne d'approvisionnement, à savoir le devoir de diligence tel que contenu dans le guide de l'OCDE. Il s'est agi du processus à suivre par les entreprises minières et des personnes physiques pour s'assurer que les minerais sont extraits et négociés dans les normes. La formation a été complétée par un rapport présenté par l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITE. Son coordonnateur national donne ici l'essentiel de cet atelier. Mac Doumba est au micro d'Aliana Ali Panagama.
Nous sommes une initiative chargée de réconcilier les données financières dans le secteur extractif. L'OCDE est chargée de collecter les données physiques, c'est-à-dire dans la traçabilité, aider les personnes. C'est cela un peu la différence, mais nous faisons le même travail et nous pensons que l'atelier auquel nous venons d'assister, les informations qu'on a collectées dans les travaux en commun, je pense que ça peut aider non pas seulement le gouvernement, mais nos populations et surtout les acteurs et les opérateurs dans le secteur artisanal à mieux centrer la problématique de l'exploitation et de la vente des produits du secteur artisanal, particulièrement l'or et le diamant. Et donc nous disons que l'OCDE fait un travail de fond pour former des personnes qui peuvent aider à ce que les minerais ne soient plus appelés des conflits de sang, parce que maintenant la traçabilité est certaine, même au niveau du pur artisanal.
À Kalemi, dans le Tanganyika, les usagers du parking de Tricot près du marché du Cinquantenaire se plaignent des tracasseries de la part des services de l'État. Au total, près d'une dizaine de services opèrent sur ce parking, ce qui, en plus d'une dizaine de barrières érigées sur la route, fait perdre à chaque camionneur l'équivalent de plus ou moins $300. L'un d'eux témoigne au micro d'Expedi Mombamoubi.
C'est quoi un lomba 8000 francs? Transcom.
Il faut débourser par camion 8000 francs congolais pour la SECO, $10 pour le service des transports et communications, $5 pour le bureau 2 de l'armée, $5 pour le bureau 2 de la police, $5 pour la DGM, $5 pour l'ANER, $5 pour la DEMIAP. Et puis les barrières, il y en a à 50 km, à 60, à 75, à Kyoko, à Niemba, à Benze, à 20 km de Nyuzu, à 8 km, à Nyuzu Centre, à Kabeyamaï. Trop de barrières. Le montant n'est pas fixe. Tantôt 5 000 francs par barrière, tantôt 10 000 francs. C'est selon que les militaires sont en état d'ivresse ou pas.
5 000, 10 000, ça dépend de ce que tu as dit. Quand tu as dit que tu as 10 000 francs, tu es obligé de partir 10 000.
Notez que le parking de Tricot est le point de départ des véhicules vers les carrières minières, mais aussi à destination soit d'Ouvira, de Mbujimaï et autres. Cependant, l'administrateur de territoire de Kalemi dit ne pas être au courant de toutes ces tracasseries. Bernard Bokolangaya précise tout de même que seul l'ASECO doit exercer sur ce parking.
Écho d'économie.
Je vous l'ai annoncé, la SNCC a officiellement réceptionné aujourd'hui 18 locomotives neuves achetées par le gouvernement avec les financements de la Banque mondiale. 20 autres locomotives neuves achetées avec les fonds propres du gouvernement sont attendues dans les prochains jours. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de remise de ces engins ce matin à Lubumbashi. Des différents discours de circonstances, on retiendra que la dernière acquisition des machines neuves par la SNCC remonte à 1976. Je vous propose d'écouter Ilunga Ilunkamba Sylvestre, le DG de la SNCC.
Les 18 locomotives neuves, là devant vous, font partie intégrante d'une commande de 38 locomotives neuves auprès du groupement des entreprises chinoises, dont 18 locomotives sur financement du projet de transport multimodal pour un montant de $31,517,130 et 20 locomotives neuves sur financement du Trésor de la République démocratique du Congo pour un montant de $33,756,294. Ces locomotives neuves sont destinées à assurer le transport de marchandises et des voyageurs sur l'ensemble du réseau de la SNCC, 3641 km, desservant 12 provinces sur le 26 dans la configuration administrative après découpage.
Le ministre des Transports a quant à lui reconnu le désengagement de l'État qui a conduit au déficit de la SNCC. Et voilà, plus de 40 ans après, les chemins de fer peuvent redevenir l'épine dorsale de l'économie congolaise, selon Justin Kalumba Mwanangongo.
C'est donc depuis 41 ans que la SNCC et la nation congolaise tout entière attendaient un tel événement. Comme vous le constatez, en dépit du rôle central que le chemin de fer devrait jouer pour l'économie d'un vaste pays comme le nôtre, cette entreprise a longtemps souffert d'un désengagement de l'État. Désengagement qui a perturbé durant des décennies jusqu'au début des années 2000 avec comme clé de voûte un déficit d'investissement de tous ordres. Les conséquences ont été sans appel. La SNCC, qui était longtemps considérée comme l'épine dorsale de l'économie congolaise, a entamé peu à peu sa descente aux enfers sur fond d'une triple insuffisance. Insuffisance en termes de la qualité de la voie, insuffisance en termes de recyclage du personnel, insuffisance en termes de matériel tant roulant que de traction.
Le ministre des Transports a également formulé quelques recommandations aux cheminots.
La seule exigence non négociable du gouvernement est que toutes les pratiques toxiques d'antan soient désormais bannies à la SNCC. Ces pratiques toxiques qui ont précipité la chute de la SNCC, que je dénonce ici de manière publique et non exhaustive devant la plus haute instance du pays, en l'occurrence les chefs de l'État, sont, je les cite rapidement, les transports des clandestins dans les locomotives, dans et au-dessus des wagons de marchandises, communément connus sous l'expression des phénomènes Kaloulou au singulier, Touloulou au pluriel, vous connaissez ça. Les non-respects de la réglementation en matière de chargement des wagons, les non-respects de la réglementation en matière de limitation des vitesses, la conduite des trains sous l'emprise de l'alcool ou d'autres stupéfiants, le rançonnement ou les raquettes des voyageurs au détriment de la société.
C'est un dossier préparé par Daniel Tambinzoni. Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Léonard Moulamba, mise en onde par Jean-Noël Mokondo et suivie par vous. Merci.